Oh, nous, l'attitude que nous avions vis-à-vis de ces juges d'instruction, c'était de ne, quand on parlait de lutte armée, dire, bon, de toute manière, vous ne pouvez pas, si vous vous attaquez, vous ne pouvez pas me laisser, me faire croire, moi je vais rester à vous regarder les deux bois, les deux mains libres et les deux bois ballants. Je vais chercher à avoir des armes. Alors à ce moment-là, ils vous disent, oui, mais quel pays, etc., pour ajouter maintenant une autre clause en disant que vous êtes en contact avec l'étranger, que vous en faites toute série de choses comme ça. C'était, je crois que c'est vrai qu'au départ, quand on vous arrête, si on n'a pas une petite expérience dans ce domaine, on se retrouve un petit peu effrayé. Mais si on prend les choses, on conserve son sang-froid, on voit aussi leurs faiblesses. à mon avis, en 1967, lorsqu'on nous a arrêtés, le gouvernement français n'était pas prêt à discuter de quoi que ce soit avec les Guadeloupéens. Pour eux, vous avez choisi l'assimilation en 1946, la départementalisation, vous êtes assimilés, ben, foutez aux gens la paix. Nous, on fait ce qu'on a à faire, et puis vous, vous la fermez. Après, c'est tout. C'était un peu l'attitude et la signification que je donnais à leur attitude et au message qu'ils nous envoyaient. Et quand on comprend ça, on trouve à ce moment-là des arguments pour leur donner. Et je crois qu'à ce moment-là, ils sont très, très embarrassés parce qu'ils ont devant une opinion, qu'ils ont une opinion publique qu'ils ont essayé de tromper, de raconter des histoires, et vous pouvez démonter d'un point à un autre. Si vous voulez, ça, on l'a compris au départ. C'est vrai que quand on vous arrête comme ça, on fait l'instruction par des responsables de la police. À ce moment-là, on est un peu surpris parce qu'on ne sait pas au fond ce que X, Y aurait dit, ce que un tel aurait dit, quelle interprétation. Mais une fois, alors, on avait quand même une petite préparation dans ce domaine. Il y a des camarades, par exemple, qui n'ont dit aucun mot. Ken, par exemple, qui n'aura dit mot, n'a rien à dire. Vous pouvez poser des questions. Mais c'est vrai aussi, ça dépend de, disons, d'activités que chaque camarade pouvait avoir. Celui qui n'avait pas eu à faire une tâche qui pourrait compromettre effectivement le futur, cette personne-là, qui on sait qu'elle fait quelque chose, mais on n'a pas vu, on n'a pas de preuve. Et lui, il ne parle pas. Il dit non, je n'ai rien à vous dire. Michel n'avait rien chez lui. Michel, je n'ai rien à dire. Ce que je dis, c'est que la Guadeloupe doit être indépendante. Qu'est-ce que vous avez contre ça? Alors, ils sont à ce moment-là embarrassés. Quand ils arrivent maintenant chez un camarade et qu'ils trouvent un certain nombre de lettres, de missiles, de documents qui sont des échanges entre un groupe et un autre groupe, ça leur donne un peu la force. Mais vous pouvez retourner ça contre eux. Mais c'est vraiment tout un exercice, c'est tout une sorte de jeu. Hein. Vous pouvez retourner ça contre eux. Parce que vous allez dans l'histoire de France et vous allez trouver plus d'un qu'on avait arrêté, que ceux qu'eux, ils ont considéré qui étaient effectivement des ennemis, ont arrêté. Et ont essayé d'enfoncer ceux qui sont des vrais patriotes en leur présentant un certain nombre de documents de ça. Donc, moi, je crois que si vous voulez, c'est vrai que à cette époque-là, la jeunesse, mais aussi un certain nombre de militants, de gens qui sont déjà d'un certain âge, avaient vraiment une volonté de lutter et pour pouvoir conquérir, peut-être pas l'indépendance immédiatement, mais sous le principe d'indépendance et dans la pratique, avoir une autonomie qui nous permettrait d'avoir un certain nombre de responsabilités. Je crois que le gouvernement français n'était pas encore prêt à cela, mais si effectivement le GONG avait pu continuer, je crois qu'au bout de quelques années, on aurait pu arriver à quelque chose.